une petite minute peut-être pour qu'il y ait réaction, une question. Et si vous avez observé le programme, on a laissé un long temps cet après-midi après l'intervention de Delphine Grugeman et Véronique Francis pour justement revenir sur toutes les questions, les frustrations de ne pas pouvoir poser ces questions maintenant et puis de remuer tout ce qui aura été dit dans la journée. Donc peut-être, je ne sais pas si vous souhaitez réagir à Marc, sinon...
Juste peut-être réagir sur le premier point qui m'a surpris, parce que j'avais pas pensé comme ça, donc c'est ça qui est intéressant, sur votre réflexion sur la question de la judiciarisation et du contrat. Je crois que c'est une de... Au-delà de la question qui nous rejoint aujourd'hui, c'est une des questions fondamentales qui s'en posent aujourd'hui aux politiques sociales. C'est de l'utilisation du contrat nous laisse penser que nous sommes dans un rapport d'égalité dans l'accompagnement, puisque le contrat suppose que les deux acteurs du contrat négocient les termes du contrat et négocient les obligations des uns et des autres. Et qu'en effet, on est sur des dérives, moi ce que j'appelle contrat d'adhésion, comme les contrats d'assurance automobile, où à part payer et signer en bas, vous ne négociez rien du tout, et que ce sont des contrats obligatoires. Bon, on est aujourd'hui, bien évidemment, et vous avez ces contrats-là dans votre champ, et je ne citerai pas tous les contrats qui maintenant, au fur et à mesure des lois, organisent complètement l'accompagnement social de tous les publics, et avec la question de quelle est véritablement l'égalité, en termes d'égalité, c'est-à-dire d'acteur, pour un public en difficulté, de venir signer un contrat face à une toute puissance administration. Donc voilà, donc en effet, je pense que c'est une... Après, la question de la judiciarisation... Moi, j'aurais tendance à regretter qu'il n'y en ait pas plus. Je ne parle pas des contrats, mais je parle du fait qu'on puisse contester en justice, justement, ces contrats. Or, il n'y a pas de contestation en justice de ces contrats. Parce que le recours au droit, qui permettrait de... En tout cas, le recours au contentieux, qui permettrait peut-être de rééquilibrer ce déséquilibre initial, est carrément inexistant pour les populations migrantes, bien évidemment. Et pas que, je ne connais pas aujourd'hui un bénéficiaire du RSA qui va attaquer en droit administratif, devant le tribunal administratif, le caractère léonin de son contrat, d'insertion. Oui. C'était intéressant par ailleurs. Et je ne connais absolument pas d'association qui viendrait accompagner ce bénéficiaire du RSA devant un tel contentieux. Et quand vous citez Justice, je crois que c'est l'association qui fait exception, qui a choisi l'outil contentieux comme outil de combat. Mais dans le social, moi je regrette beaucoup justement que ce soit pas assez judiciarisé, c'est-à-dire que le juge n'ait pas son mot à dire sur ces pratiques contractuelles qui sont totalement illégales dans les rapports de force. Voilà.
Oui, Cécile.
Moi, j'ai une question, mais ce n'est pas forcément maintenant qui serait intéressant de la débattre, parce que pour avoir mis autre chose, je pense qu'elle traverse, elle est bien mise en évidence dans vos deux interventions. C'était de savoir si le fait de connaître la culture de l'autre permettait de développer une compétence de médiation interculturelle. Parce que j'ai senti à plusieurs reprises, malgré toutes les précautions qui ont été prises, sortir un peu de la connaissance de la culture de l'autre, que tout de même, cette connaissance de la culture de l'autre avait une place assez particulière dans la reconnaissance ou la légitimité des acteurs sociaux. Et je pense que, pas forcément maintenant, mais ce sera une question qui serait intéressante d'aborder dans la...
Oui, c'est une difficulté à laquelle sont confrontées les démarches interculturelles et la formation des formateurs, qui, me semble-t-il, accorde une confiance assez importante en à la valeur de cette connaissance culturelle comme facteur d'intégration.
Je pensais particulièrement à l'éducation, mais aussi à d'autres dispositifs qui... construit autour de personnes. personnes qui sont recrutées, qui sont mises en œuvre en tant qu'acteurs, du fait, parfois du seul fait, de leur connaissance de la culture, de la langue. Donc c'est, je ne veux pas aller au-delà maintenant,
oui, parce que je pense que c'est un mot, ce sera voilà. Au cœur, non, tout à l'heure.
Je voudrais juste, par rapport à ce que vous dites, vous rapporter les propos de ma collègue Awaketa, qui est ethnosociologue auprès de moi, et qui est d'origine africaine, comme son nom le dit, et qui, à chaque fois qu'on la réduit à des pratiques de médiation interculturelle vis-à-vis des populations africaines, dit à mes collègues, donc aux autres collègues, non mais je suis ethnosociologue. Et c'est ça qui fonde ma légitimité, et non pas le fait que je suis africaine et que je peux connaître un certain nombre de... Et donc, c'est parce que je suis formée à un certain nombre de choses que je peux aussi, pourquoi pas, travailler avec un public suédois si nous avions des problématiques de public suédois. Je ne sais pas si ça répond au questionnement que vous fondez, mais en tout cas, on a essayé de construire son poste autour de cela. C'est la culture... dans ces détails de tout. D'abord, ça serait impossible. Comment peut-on connaître toutes les cultures qu'on va rencontrer? Ça serait déjà un impossible. Donc c'est plus une posture d'accueil, ça me semble-t-il, une posture de questionnement de ses propres représentations et d'aider les autres à questionner leurs propres représentations que véritablement la question de la connaissance fine de la culture de l'autre, qui par définition est impossible et toujours recommencée. Donc, vraiment.
Je pense qu'il y a une question centrale qu'on commence à aborder et que vous avez très bien abordé. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié quelques mots-clés que j'ai retenus dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire sens, pouvoir, la question du pouvoir sur le sens. Et moi, ce que j'ai lu dans ce que vous avez dit, c'est que finalement, pour éviter beaucoup de problèmes, on transforme les différences en maladies. Mm-hmm. En maladies ou en délits. Alors, je crois, et donc d'où le biais juridique que Marc a adopté. Mais je crois que la question qui est sous-jacente à tout ça, finalement, c'est la question de savoir si dans les phénomènes qui nous intéressent, les questions de langue et de culture, de sens, alors pas vraiment de langue, mais de sens, si tout est explicite ou non. Mm-hmm. C'est-à-dire que la judiciarisation réclame de l'explicitation, c'est-à-dire qu'il faut des signes, des indices que personne ne puisse contester. Et je crois que la question que pose Cécile, c'est finalement la même question autrement, c'est-à-dire que la connaissance de la culture des autres est une connaissance, enfin, quand on dit connaissance, généralement, on suppose une connaissance explicite. On va nous expliquer, on va nous enseigner la culture des autres. Et est-ce que la culture se limite à ce qui est explicitable? Et donc, je reviens un petit peu à votre question initiale, vous parliez de tension. Vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui est l'intégration est un processus réciproque. Mais ce n'est pas du tout la définition française de l'intégration. Mais ça ne peut pas être réciproque.
C'est pour ça que le contrat est unilatéral.
Je pense que la question, je pense, c'est de savoir si des rencontres de culture, enfin, si lorsque les cultures se rencontrent, s'il peut y avoir intégration, c'est-à-dire si une culture peut intégrer une autre. Enfin, moi, ça me paraît assez contradictoire avec l'idée de culture, avec par exemple ce que Marc dit quand il dit qu'on ne peut jamais comprendre la culture de quelqu'un d'autre. Enfin, complètement, totalement. Donc, moi, il me semble qu'il y a un débat autour de jusqu'où les phénomènes dont nous parlons sont des phénomènes explicites. Et s'ils ne sont pas complètement explicites, comment est-ce qu'on peut réglementer tout ça?
Je vous renverrai bien la question, est-ce qu'on doit réglementer tout ça?
Oui, non, mais si on ne peut pas, on ne doit pas.
Voilà. Et ce que je voulais dire dans le fait que l'intégration était un processus réciproque, moi ce que j'observe encore une fois de ma place, et peut-être d'une place à la fois professionnelle puis d'une place personnelle, puisque j'ai toujours vécu en banlieue, j'ai toujours vécu en cité, je continue à vivre en cité au bout de 50 et quelques années. Donc voilà, donc moi ce que je constate, c'est que, et je contacte aussi dans les pratiques professionnelles, les rencontres font qu'on construit à partir de la culture de notre, la culture des autres et la nôtre, on construit une nouvelle culture, si je puis dire. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle l'intégration, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai essayé de dire ce que j'ai essayé de dire aux élus pour avoir qu'on puisse avoir le droit de travailler ces questions-là, pas le droit, on le fait bien évidemment, le droit, mais que ce soit lisible, par contre, que ce soit porté politiquement. Ça me semble important que ce soit porté politiquement. Je dis aux élus, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on se positionne sur le fait comment on fait culture ensemble plutôt que d'intégration. C'est ça que j'ai proposé comme démarche. Une démarche qui pourrait avoir un sens politique. Comment, avec des Val-de-Marnais qui viennent d'origine géographique, culturelle aussi diverse, comment les politiques publiques les aident à faire culture ensemble. C'est comme ça qu'on a essayé de construire ce projet politique.